Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Si vous avez manqué la première partie, nous avons parlé actu, presse libre et Hollow Knight, Silk Song. Allez l'écouter. Et pour cette deuxième partie, nous continuons avec l'architecture, la littérature et la bande dessinée. Nous sommes toujours avec Diane, Hugo, Isnel, Léa et Saphir. C'est parti.
Bande dessinée, jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Diane s'est penchée ce mois-ci sur la bande dessinée Sibylline de Sixtine Dano. Dis-nous en plus.
J'ai fait seul comble ce soir encore, j'étais parfaite en ma robe blanche. J'étais si belle, ils m'applaudissent encore. Je suis toujours belle quand je suis sur les plans. J'ai les yeux de monsieur sur moi et aussi ceux de cet homme là-bas, oui.
C'est avec une préface de Solane que s'ouvre cette bande dessinée. Elle y écrit « Je ne suis pas sûre qu'on soit un jour ou jamais en phase avec sa coquille. En tout cas, je n'en connais pas encore qu'ils le sont. Et au-delà de ne pas se sentir chez soi, dans son propre corps, c'est une autre galère que de comprendre et d'appréhender la place qu'a ce corps, cette enveloppe aux yeux des autres entre leurs mains. » Dans Sibylline de Sixtine Dano, on découvre Raphaël, 19 ans, jeune étudiante en architecture qui arrive à Paris. Au fil de son arrivée, elle réfléchit à son rapport à son corps, à sa féminité et à son besoin d'émancipation. Elle en arrive, à un moment, à devenir escort girl, à avoir des clients pour des prestations de sexe tarifées. Elle devient alors Sibylline, le temps de quelques nuits. En lisant cette BD, on y découvre ses réflexions, ses projets de cours interminables et surtout son quotidien étudiante. Moi, j'ai découvert cette bande dessinée en septembre dernier, lors de la remise de son prix Tour d'Ivoire par le festival à Tour de Bulle, le 20 septembre. Et je vais être honnête avec vous, cette bande dessinée m'a marquée, au plus profond de mon être, de mes réflexions et de mon rapport à la séduction. Désirer, séduire, plaire sont des vastes sujets. Alors entre ses amis, ses rencontres amoureuses et son quotidien d'escort girl, Raphaël devient une amie pour nous. Je me suis retrouvée dans ses doutes et dans ses projets de cours à rendre dans des délais horriblement courts. En devenant leur escorte, elle devient pour tous ces hommes celle à qui on peut tout dire. Celle qui n'est pas leur femme ou leur copine, mais celle qui peut les écouter sans les juger. Parce que c'est ça son rôle, être payée pour les écouter et coucher avec eux. Elle devient celle à qui on peut dire du genre.
J'avoue que ça me gênerait que ma fille fasse ce genre de choses. Mais toi, t'aimes ça, non? Il y a des choses que je n'oserais pas demander à ma copine. Je la respecte trop.
Ou encore?
Quand je mixe, je peux avoir quasiment n'importe quelle fille de la boîte. Ça ne me fait pas bander. J'ai besoin qu'on me résiste. Mais attends, Diane, tu veux dire que les hommes sont tellement éloignés de leurs émotions et de leurs ressentis qu'ils sont obligés de payer une prostituée pour pouvoir se confier?
Oui, bon, tu vas me dire que c'est toujours mieux consulter une meuf sur Internet ou que d'envoyer une dick pic. Mais ce qui m'a marqué dans cette bande dessinée, c'est la finesse et la complexité de ses réflexions. Sa capacité à s'écouter, à changer d'avis et à avancer dans son cheminement de vie. Et cette bande dessinée aborde aussi des sujets politiques en filigrane de l'histoire de Raphaël. L'éco-anxiété, les rapports hommes-femmes, la sororité, la difficulté à trouver du travail quand on est jeune ou encore les troubles du comportement alimentaire. De plus, les traits à l'encre de Chine et au fusain imaginés par Sixtine Dano offrent une finesse et une profondeur à chaque instant de vie. Alors que cette bande dessinée est toute en noir et blanc, elle illustre une grande luminosité via des scènes de fête et de grande joie. Alors au-delà de raconter son histoire et les clients avec qui elle couche, cette ouvrage m'a ému aux larmes, permis de re-questionner mon rapport à la séduction et en soi à mon intime et donc à mon politique.
La magnifique bande dessinée Sibylline de Sixtine Dano. Encre de Chine et...
Fusain.
Encre de Chine et Fusain, c'est en noir et blanc, c'est magnifique, c'est à aller voir. Vraiment, c'est à feuilleter encore et encore. C'est marrant parce qu'en antenne, juste avant le début de cette émission, on a eu une discussion un peu parallèle. Donc on va pouvoir s'enrichir un peu les uns les autres. Léa, est-ce que ça t'a donné envie de le lire? Qu'est-ce qui te parle dans ce que Diane vient de dire?
Je pense que c'est des... Ouais, ça doit être une lecture un peu poignante. Je pense que ce qui est intéressant à découvrir, c'est cette intimité parallèle à la société qui se trouve en fait dans ces moments avec des filles qui sont escortes. Mmh. On a tout d'un coup accès à d'autres conversations, d'autres mots qui sortent de la bouche des hommes, des garçons qui y vont. Et j'ai un peu l'impression que c'est un monde parallèle au courant banal du quotidien. Mmh. Et moi, c'est ça qui m'étonne, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est peut-être pour ça que je la lirais, de se dire, mais pourquoi ça fait pas partie du wagon du quotidien, ça? Pourquoi c'est un à côté et comment ça marche, en fait? C'est là, comment ça marche? Et en fait, voilà, on remercie ce genre de BD de mettre la lumière sur des sujets comme ça. Je pense que voilà, c'est bien de connaître tout ce qui se passe aussi autour sans qu'on le sache.
Isnel?
J'ai trouvé aussi cette BD absolument magnifique visuellement. C'est le contraste en fait entre les dessins qui ont l'air très doux par rapport à la dureté du sujet, enfin la complexité. C'est ça qui m'a vraiment étonnée. Et oui, aussi très curieuse de découvrir ces sujets-là. C'est des questions sur lesquelles je suis pas du tout éduquée correctement. Et donc c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir le point de vue des personnes concernées. Mmh.
Juste avant de donner la parole à Hugo, j'aimerais vraiment reprendre un point que t'as soulevé, en tout cas dans ce que tu as dit. L'éco-anxiété, les rapports hommes-femmes, la sororité, la difficulté à trouver du travail quand on est jeune, ou encore les troubles du comportement alimentaire. C'est vrai que quand vraiment on analyse un peu l'environnement, l'entourage, la société, tout ça est mêlé. Ouais. Tout ça est mêlé en ce moment, c'est vraiment, c'est intrinsèque, quoi.
Et alors, Sixine Dano, elle a fait beaucoup de... Enfin, elle est une militante écologiste, etc. Elle fait beaucoup d'actions assez fortes sur ces sujets-là. Donc, c'est aussi les sujets qu'elle voulait aborder. Et j'ai regardé une interview, elle dit, en fait, je voulais pas faire une BD juste sur une étudiante qui est escort girl. Mais je voulais faire une bande dessinée sur une étudiante qui est en fait une vraie personne en soi. Et j'avais regardé, je crois qu'il y a 7% des étudiants interrogés qui se sont déjà prostitués, et il y a 18% qui ont déjà pensé à le faire. Donc en fait, l'idée, c'est un sujet qui peut être... qui est dans la vie quotidienne de plein de personnes, en fait, et de plein de meufs, je pense, qui sont étudiantes et qui ont besoin de boucler les fins de mois et qui préfèrent faire ça que de travailler dans un resto, quoi.
On arrive à 25% accumulé. Ouais. C'est énorme. Ça veut dire qu'une personne sur quatre se pose la question, alors qu'elle ne le devrait pas, de se dire, j'y vais pour juste subvenir à mes besoins du quotidien, c'est-à-dire manger, boire...
Sachant que dans la bande dessinée, donc... Sibyline, c'est le nom qu'elle porte pour ses clients, et Raphaël, c'est son vrai prénom. Et en fait, elle passe via un site de sugar daddy, etc. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites très un peu, enfin, qui sont marquées, mais c'est pas marqué que c'est du sexe tarifé, etc. Donc, c'est aussi un sujet de comment est-ce que on protège les clientes aussi, enfin les clientes, les escort girls, parce que quand elles commencent à vouloir revendiquer leurs droits, on est un peu en mode, ouais, en même temps, tu l'as un peu cherché parce que t'es escort girl, donc en fait, si t'as des problèmes avec tes clients, c'est un peu de ta faute, quoi. Donc, c'est aussi un sujet qui est politique et qui est plus que important de traiter.
Hugo.
Oui, bah moi du coup, Diane a eu la merveilleuse idée d'apporter sa BD, donc j'ai pu un peu la feuilleter. Et effectivement, moi j'avoue, j'aime beaucoup le fusain, donc je trouve les dessins vraiment magnifiques. Et ce que je trouve très fort, c'est les yeux des personnages. Genre, même si c'est, en fait, les dessins sont assez simples, et pourtant on arrive très à comprendre leurs émotions et surtout les états d'âme de Raphaël. Il y a eu quelques fois, on voit sa réflexion, un peu son hésitation, et surtout le fait que finalement... elle n'a pas forcément envie, et pourtant elle y est un peu obligée pour vivre, en fait. Et à ce côté très... il ne devrait pas le faire, et pourtant la société les pousse à le faire. Donc ouais, j'avoue, la BD, là, j'ai un peu feuilleté, mais rien que ça, ça m'a un peu secoué, donc je comprends qu'elle t'ait vraiment touchée, Diane.
Sibyline de Sixine Dano, Dano, c'est bien ça?
Dano, oui.
Sibyline de Sixine Dano, disponible en librairie ainsi que dans vos bibliothèques et vos médiathèques du coin. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris, 93.9 FM à Paris et dans sa région.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
La bibliothèque François Mitterrand, un lieu de littérature qui accueille une exposition sur Colette. Hugo, tu es parti y faire un tour.
C'est ça. Et comment vous en parler, puisque Colette, si pour certains ce nom ne dit rien, pour d'autres il est porteur d'un poids énorme. Résumant combien cette grande dame est iconique. Et comment vous la présenter? Comme une autrice, c'est vrai, mais cruellement incomplet. Comme une actrice. Il est vrai qu'elle a fait du théâtre et avait un numéro au Music Hall. Comme une journaliste, avec plus de 1000 articles, on ne peut pas nier que la presse a occupé une large partie de sa vie. Comme gérante d'un salon de beauté. C'est une vérité un peu plus confidentielle, mais une vérité quand même. Comme une icône queer, puisque Colette était bi et elle le revendiquait clairement. Donc, vous l'aurez compris, Colette, elle a vécu plusieurs vies. Et pour tout vous dire, je trouve que l'exposition porte très bien son nom. Se pencher sur la vie de Colette, ce n'est pas explorer son monde, mais tous ses mondes, ses univers et ses vécus, intrinsèquement liés à ses écrits. Et là-dessus, donc, l'exposition ne s'y trompe pas. Répartie en plusieurs salles, chacune vient explorer une facette de la vie de Colette, ce qui signifie que les salles ne suivent pas forcément de manière chronologique, elle retrace chacune chronologie interne sur l'un des pans de la vie de Colette.
Et concrètement, qu'est-ce qu'elle nous offre à voir l'exposition ?
Eh bien, pour ce qui est de l'exposition en elle-même, elle permet de voir des citations, des enregistrements et surtout, je pense le plus important, les manuscrits originaux de nombre de textes et de Colette et parfois aussi des lettres écrites par Colette elle-même. Malheureusement, je trouve que c'est pas toujours lisible pour qui n'est pas habitué à l'écriture du siècle dernier.
Et tu en as pensé quoi de cette expo ?
Et franchement, j'ai bien aimé. Je trouve que l'exposition est très riche sur les objets qu'elle propose et dans la manière de les exposer. Mais je trouve qu'elle reste un peu en surface. Par exemple, sur les vieux manuscrits, j'aurais bien aimé des transcriptions écrites de ce qui est écrit parce que justement, je trouve que c'était pas toujours très lisible et j'aurais aimé un peu plus d'immersion dans ces textes. Plus qu'un simple récit de sa vie, une véritable immersion dans sa vie. Mais peut-être est-ce là toute la difficulté de créer cette exposition autour de Colette et toute l'intelligence qu'il y a eu de l'explorer au travers de ses mondes et non une biographie linéaire. Puisque j'en ressors quand même assez admiratif de la vie de Colette, de sa tendre enfance à sa mort, immobilisée par l'arthrite, en passant par la présidence du prix Goncourt et finissant par des funérailles nationales, les premières pour une femme en France. Et avant de conclure, j'aimerais vous laisser avec un petit extrait qui est présent dans l'exposition de son livre « Les vrilles de la vigne ». Et Fabrice, écoute bien.
Il était obligé.
Il faut vieillir. Ne pleure pas. Ne joins pas des doigts suppliants. Ne te révolte pas. Il faut vieillir. Répète-toi cette parole, non comme un cri de désespoir, mais comme le rappel d'un départ nécessaire. Regarde-toi. Regarde tes paupières, tes lèvres. Soulève sur tes tempes les boucles de tes cheveux. Déjà, tu commences à t'éloigner de ta vie. Ne l'oublie pas, il faut vieillir. Et j'en profite pour inverser la formule de Juliette Arnaud. Bisous, merci, bisous.
Juliette Arnaud, que vous pouvez retrouver dans la dernière sur Radio Nova. Merci Hugo. Passons aux réactions. Diane.
Moi, c'est marrant que tu aies choisi cette expo parce que dans quelques semaines, j'ai ma mère qui vient à Paris. Je lui avais proposé d'aller voir cette expo. Bon, j'ai le temps d'avoir une autre expo, mais ça m'a fait beaucoup interpeller Colette et l'expo.
J'ai hésité à t'inviter à venir.
Non, mais c'est noté dans ma liste d'expos à aller voir en Paris, donc c'est noté.
Léa.
Moi, ce que je trouve hyper bien, et en tout cas, tu l'as vraiment bien expliqué, c'est qu'on rentre dans chacun des mondes de Colette et qu'on n'a pas juste un aspect chronologique. On a de la chronologie dans la chronologie. Et moi, c'est des sujets qui me passionnent. On oublie trop vite que des artistes sont souvent à multiples facettes. On met en lumière qu'un seul de ces arts qui, en tout cas, a été rendu public. Mais on oublie que généralement, pour arriver à un art à succès, il y a eu d'autres arts autour qui l'ont alimenté. Et donc, en fait, c'est ça. C'est trop bien d'aller explorer toutes ces tentatives, toutes ces expériences qui ont été fructueuses ou pas, et de savoir que la chronologie dépasse sur celle des autres, se complète, et donc c'est en ça aussi qu'un artiste naît. Et moi, c'est un peu ce que je reproche aux expositions qui se centrent sur une seule personnalité, c'est qu'on ne se centre que sur un aspect de leur vie généralement. Et du coup, moi, je ressors toujours avec un goût de manque de quelque chose. Donc en tout cas, pour ça, je pense que j'y ferai un tour à la BNF pour pouvoir plonger dans la complexité de cette personne-là qui est Colette.
Isnel, je t'ai vu valider.
Oui, totalement. Je trouve ça génial cette idée d'avoir eu de montrer ces mondes différents de manière intrinsèque et pas forcément de manière chronologique comme ça dans des salles différentes. C'est un peu comme ça que je visualise notre cerveau, genre plein de salles comme ça qui se chevauchent en même temps. Et effectivement, je peux comprendre aussi que du coup, on en ressort quand même peut-être un petit peu... frustrée parce que c'est difficile en fait de vraiment s'immerger dans la vie de quelqu'un. Mais en même temps, je trouve que c'est une belle initiative parce que ça permet d'humaniser l'artiste. Parce que souvent aussi, on ressort des expositions, on se dit « Waouh, cette personne est incroyable !» Et c'est presque comme si ce n'était pas un être humain, alors que cette personne a vécu plein de choses. Et... Oui.
Mais vous ne trouvez pas que l'ouverture de ce genre d'exposition, c'est peut-être aussi de vous donner l'envie d'aller voir peut-être qui a été Colette. Exactement, parce que ça reste quand même très compliqué quand on sort d'une exposition, déjà d'avoir l'ensemble des éléments en tête, et puis de se dire, attends, qu'est-ce que j'ai retenu, etc. Ok, ça c'était très cool, mais attends, elle a quand même été actrice et autrice, et puis journaliste. Attends, qu'est-ce que je retiens, machin.
Là,
qu'est-ce
trucs.
Que t'en penses, toi?
Oui, moi je suis d'accord, de toute façon, une exposition, elle est là pour ouvrir, elle n'est pas forcément là pour apprendre. Je pense qu'elle est là pour susciter à la fois une émotion et le début d'une réflexion, pour rebondir sur le fait que c'est hyper intéressant de découvrir les multiples facettes d'un artiste. Moi j'avais vu une exposition il y a des années sur Niki de Saint-Phal, et Dieu sait combien il y a d'expositions sur Niki de Saint-Phal.
J'en ai fait une récemment.
Voilà. Et en fait, j'avais bien aimé, je l'avais vu à Toulouse il y a des années de ça, c'était trop bien parce qu'on n'était pas juste rentré dans ces sculptures gigantesques, il y avait une partie de l'expo, et si j'en parle, c'est que ça m'a marqué, où on avait accès aux lettres intimes qu'elle s'écrivait à elle-même, et elle racontait tous les événements de sa vie qu'on ne connaît pas forcément au début. Et là, pour moi, ça a fait sens. Et d'un coup, j'ai raccroché à Niki de Saint-Phal pour ses lettres et pas forcément pour ses sculptures. Et du coup, je pense que c'est aussi une ouverture à aimer plus d'artistes que de présenter tous leurs arts parce que selon nos affinités, eh ben, on est plus ou moins sensible. Donc je pense que ça va être pareil pour Colette.
Mais surtout qu'en plus, il y a la librairie de la BNF où il y a des livres à 3 euros de Colette qui sont disponibles. Ça rend le tout assez accessible.
Merci pour vos réactions. Les mondes de Colette à la BNF jusqu'au 18 janvier. Les infos sur bnf.fr à la rubrique Agenda. C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris, 93.9 FM, DAB+, et sinon radiocampusparis.org.
Sculpture,
littérature,
musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Les puristes me le reprocheront, mais tant pis, je n'ai pas eu le temps. Nous sommes à Paris, dans le 11e, à l'Atelier des Lumières. Certains diront qu'il n'y a aucune raison de parler d'architecture, et d'autres si. Si, parce qu'il s'agit d'un lieu à 360 degrés et en 3 dimensions. À l'Atelier des Lumières, il y a des projections partout, le son est partout, et notamment avec cette exposition.
La conquête spatiale est l'une des plus grandes aventures humaines jamais entreprises. En 50 000 ans d'histoire, seuls 12 hommes ont quitté la Terre pour fouler la surface d'un autre monde. Rejoignez-moi pour un voyage extraordinaire vers la Lune et vivez une expérience immersive unique à l'Atelier des Lumières.
Revivons la conquête spatiale avec Tom Hanks dans les yeux, les oreilles, le cerveau et la mémoire de l'acteur de film états-unien. Une heure dans une plongée de ce que la NASA a vécu à travers les différentes missions d'Apollo. Les essais, les premiers pas sur la Lune, les recherches, les tests et puis les moments de légèreté ressentis par les astronautes pendant cette conquête spatiale. Je vous propose une heure où nous nous sentons bien. Léger, où nous admirons les murs, soit avec des films, soit des dessins de trajectoire, de calcul, bref, des mathématiques et de la physique. L'Atelier des Lumières est un lieu adapté pour ce genre de projection, à moins qu'effectivement, la projection a été adaptée à ce lieu pour rendre l'expérience la plus immersive. Une heure d'affilée, et surtout, n'arrivez pas en retard, j'en ai fait la mauvaise expérience. Une heure où tous vos sens sont mobilisés pour ressentir, comme le petit homme Hanks, cette innovation technologique diffusée en mondovision. Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Diane, je te vois un peu réflexive.
Non, mais je suis déjà allée à l'Atelier des Lumières et ça m'avait beaucoup marqué, ça m'avait beaucoup intriguée. C'était la première fois que j'y allais.
Et quelle expo?
C'était un truc sur Van Gogh, je crois, ou un truc sur Dali. C'était il y a un petit bout de temps, donc je ne me souviens plus exactement. Mais j'avais beaucoup aimé l'endroit et je trouve que c'est hyper apaisant. Et en même temps, tu découvres plein d'univers en même temps. Donc tu ressors un peu sonné de voir beaucoup d'images. Sur l'espace, ça m'intrigue moins, ça me donne moins envie.
La conquête spatiale, ça te tente pas?
Ça me parle moins, ouais. Mais l'atelier des lumières, je sais que c'est toujours un lieu assez intrigant, en même temps avec beaucoup de références culturelles qui sont hyper intéressantes. Je crois qu'ils avaient fait un truc sur le Petit Prince aussi, il y a quelques années, c'était super intéressant.
Que je suis allé voir. C'était il y a quelques mois, c'était super. C'était vraiment génial, c'était très immersif. Et en plus, la force de l'Atelier des Lumières, je trouve, c'est vraiment un endroit familial. Alors moi, je suis gaga des petits qui courent partout. J'adore ça, je déteste ceux qui hurlent dans les TGV, ça m'insupporte. Et par contre, ceux qui courent dans l'Atelier des Lumières, moi, je trouve ça génial. Vraiment, c'est, tu les regardes et c'est tellement mignon. En plus, vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Isnel ?
Je crois, je ne suis pas sûre, mais j'étais récemment au Futuroscope et il y avait un film par rapport à celui qui a été sur la Lune. Et c'était en tout cas une expérience assez similaire où on était complètement immergé, c'était assez impressionnant. Et mon petit frère avait adoré, j'étais avec lui, donc j'irai sûrement faire l'atelier des lumières pour voir ça, parce que ça a l'air vraiment super. Donc oui, très intéressé.
Hugo ?
Ouais, moi j'avais jamais entendu parler de l'atelier des lumières. Après, je suis pas à Paris depuis très longtemps. Paris. Mais j'avoue, tu m'as donné grave envie d'y aller. J'aime trop ce genre d'expérience immersive par les sons et lumières, là, comme tu décrivais un peu. Le Futuroscope, moi je viens de Charente-Maritime, donc c'est pas très loin.
Ah bah
donc
oui.
La Vienne, je connais.
C'est trop beau.
Mais je suis allé,
c'était une découverte.
J'y suis allé énormément pendant mon adolescence. Donc,
ah ouais, c'était ton Disney à toi, en fait.
Oui, très clairement.
Ok, bah, c'est trop bien.
Chacun son Disney. Avant de donner la parole à Léa, juste pour vous décrire l'Atelier des Lumières, donc c'est dans le 11e, c'est un très grand espace. Il faut imaginer que c'est des mètres cubes, en fait. C'est vraiment, on arrive dans un grand espace où il y a beaucoup de formes très différentes, une forme cylindrique, des formes cubiques, il y a plusieurs étages, on peut... Alors, on n'a pas le droit de se mettre sur les escaliers, mais si vous y arrivez, faites-le. Et vraiment, mettez-vous au balcon, asseyez-vous, allez vous déplacer dans cette pièce. Vraiment, c'est un espace avec un son immersif, 360 degrés. Les murs sont cubiques, après, ils sont cylindriques. Et c'est vraiment une expérience qu'on ressent. Léa, toi, qu'est-ce que ça te parle ?
Déjà, je suis moi non plus jamais allée à l'Atelier des Lumières. Donc, merci pour la petite description à l'instant qui me donne envie d'y aller. Un peu comme Diane, c'est pas un sujet qui m'attire de prime abord. Moi, j'ai un peu de mal à voir l'humain dans la conquête spatiale. Et en même temps, c'est très humain que de vouloir repousser ses limites tout le temps. Donc bon, voilà, il y a quand même... Voilà, j'avoue que j'irai peut-être pas pour ce sujet-là. En revanche, j'irai peut-être pour un autre sujet qui m'intéressera plus. Voilà, c'est une question d'affinité, pas plus.
Juste de manière générale, question de la conquête spatiale, on s'en fout ou pourquoi pas ? Diane, on s'en fout.
Pas du même avec Léa, quoi. Je me dis, bon, oui, c'est très bien, c'est super, mais bon, il y a peut-être des choses à régler sur la Terre avant d'arriver.
On peut se dire, on s'en fout. Hein.
Enfin, oui, ben voilà.
Tout est OK, quoi. Isnel.
J'avoue que je m'en fiche aussi. Ouais. Enfin, je trouve ça beau, vu comme ça. Ah ouais, mais ouais.
Hugo.
Ouais, je suis assez neutre vis-à-vis de la conquête spatiale. Ouais. Je suis juste pour garder notre alentour de planète assez propre, parce que je sais qu'il y a plein de déchets déjà autour de l'atmosphère. J'en ai mis.
Là, je te rejoins complètement là-dessus.
Hugo, c'est, j'avoue que ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse pas nécessairement, mais ça me désintéresse pas, quoi.
Petite parenthèse, moi j'aimerais bien qu'on invente une machine comme ça, la Futurama, où on va aller chercher tous les déchets.
Oh, il y a une machine, il y a une musique, c'est le Crocosmos. C'est trop bien, je te la ferai écouter.
Avec grand plaisir, on pourra même la diffuser une fois sur Radio Campus Paris. Merci à vous, Destination Lune, un voyage immersif à l'Atelier des Lumières. Jusqu'au 4 décembre, les infos sur le site de l'Atelier des Lumières. C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir et c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous Diane, Hugo, Isnel, Léa et Saphir pour vos chroniques et réactions. Merci à Léa à la technique. Merci à vous toutes et tous.
Merci Fabrice.
Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous sur radiocampusparis.org pour nous réécouter ou sur Instagram. Diane.
Oui, sur C'est dans l'art RCP, c'est ça ?
Tout attaché, etc. On y met toutes les références qu'on a citées. On va essayer de vous mettre un maximum de choses et on vous y attend avec impatience. D'ailleurs, on vous a mis pas mal de choses sur le Hors les murs qu'on a fait il y a maintenant 15 jours, qu'on a eu un plaisir de faire avec toute l'équipe. On espère très vite pouvoir en refaire d'autres et vous rencontrer sur place avec grand plaisir. Rendez-vous à la prochaine émission dans 4 semaines pour toujours plus d'art. À voir si ce sera Léa ou moi qui allons la faire. Mais quoi qu'il arrive, on reste toujours au poste ici dans C'est dans l'art. Portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.